Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonize. Sur Radio Immo.
Bonjour à vous, si vous nous rejoignez en direct de cette troisième journée, j'allais dire deuxième, mais non, nous sommes déjà jeudi, troisième journée du MIPIM édition 2022 dans les allées du Palais des Congrès et des Festivals de Cannes, où je suis heureuse de vous retrouver encore jusqu'à demain matin. Donc restez bien avec nous, ça continue, ça ne sera pas terminé ce soir. Nous poursuivons notre rencontre des acteurs des différentes sphères immobilières et nous poursuivons avec quelqu'un que je suis ravie d'apprendre à connaître cet après-midi. Bonjour Marie-Zola Nion.
Bonjour Johanna.
Un vrai plaisir de vous recevoir. Vous êtes présidente directrice générale de Finestate que vous allez nous présenter dans quelques instants. Juste le temps de préciser que vous êtes également la présidente de la FEI, la Fédération des entreprises immobilières. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau.
Mais c'est un grand plaisir.
Je le disais, vous êtes donc PDG de Finestate. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ?
Finestate est une entreprise que nous avons créée il y a 3 ans. Et qui est dédié au co-living. Nous sommes à la fois investisseurs et opérateurs et nous avons lancé cette entreprise dans un contexte un petit peu difficile, mais néanmoins, nous avons réussi à acquérir 3 immeubles dont un est déjà en exploitation et qui est entièrement loué à 100% dès la fin des travaux d'ailleurs. Et les 2 autres sont en cours de chantier. Les chantiers ont été un petit peu décalés, évidemment, pandémie oblige. Mais néanmoins, celui qui se trouve à Méridici va sortir en juin. Et celui qui est rue Washington dans le QCA va sortir en septembre. Donc nous sommes très impatients de les mettre également en exploitation.
On va reparler de cette aventure dans quelques instants. Juste avant, Maryse, vous êtes sur ce MIPIM. Vous êtes une habituée, évidemment, de ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de MIPIM. Alors, il y a eu un petit MIPIM en septembre, mais la sphère internationale était absente. Là, tout le monde semble de retour. Vous êtes heureuse de voir tout ce monde de l'immobilier réuni ?
Évidemment, et nous sommes tous très contents de nous retrouver. Il y a une sorte d'allégresse dans le fait de retrouver, entre guillemets, la vie comme avant. Nous sommes beaucoup moins nombreux quand même, beaucoup moins nombreux. Je crois qu'il y a à peu près 1/3 de participants en moins par rapport aux années pré-Covid. Il y a à l'évidence une grande volonté de faire des affaires, de travailler. Je trouve que c'est un MIPIM très professionnel. On est vraiment venu pour cela. Il y a également, me semble-t-il, une volonté des dirigeants de société d'y participer. Et en même temps, on voit moins de leurs collaborateurs. Je trouve que la moyenne d'âge a plutôt augmenté. Il n'y a pas les jeunes pour lesquels la participation MIPIM était un petit peu la récompense, la reconnaissance d'une certaine qualité de travail. Donc ça manque un petit peu cet aspect jeune, novateur, mais bon, il faut que j'aille aussi voir du côté des PropTech, ce que je n'ai pas encore fait. Il y en a sûrement davantage là-bas.
Sans doute, je crois qu'elles sont au moins un.
Non, mais je les ai repérées déjà.
Parfait.
Oui, bien sûr.
On va maintenant venir au sujet de Finestate, du co-living. Vous nous l'avez dit, c'est une entreprise qui a 3 ans. Ça veut dire que si je compte bien qu'elle a été fondée en 2019, soit l'année du début de la pandémie, mais également une année où le co-living en était encore à ses balbutiements. On commençait à en parler, mais ce n'était pas encore tout à fait concret. Pourquoi avoir décidé de vous lancer ?
Bien, c'est un concept que je trouvais formidable quand j'ai visité le premier co-living à ma connaissance, qui était celui de Colive à Manhattan, à son ouverture, il y a 5 ans. Et je me suis dit, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et simplement, ça ne s'inscrivait pas du tout dans le business plan d'Affine que je dirigeais et que je contrôlais même à l'époque. Et je me suis dit, plutôt que d'essayer de greffer sur le portefeuille d'Affine quelque chose de complètement nouveau, très novateur, et que peut-être le marché ne comprendra pas parce que nous étions cotés, mieux vaut repartir à zéro. Et donc j'ai cédé ma participation dans Affine et j'ai créé Finestate. Avec cette idée de démarrer un petit peu sur le même concept que Colive, mais pas exactement pareil. Et j'ai l'impression que nous sommes relativement différents En tout cas, c'est ce que nous disent tous les interlocuteurs que nous rencontrons. Nous sommes différents en ce sens que c'est un co-living qui s'adresse d'abord aux entreprises pour leurs collaborateurs, pour leurs cadres. Donc, a priori, nous n'aurons pas d'étudiants, je ne pense pas. C'est un co-living qui s'adresse à ceux qui ont besoin de pouvoir avoir un appartement plug-in. Arrivé, tout est installé, tout est en place. Ils peuvent vivre dans leur studio parce que ce sont des studios complets avec salle d'eau et kitchenette autonome et personnel. Donc en cela, c'est également assez différent de la résidence étudiant. Mais ils ont en même temps la possibilité d'être à la fois autonomes, mais pas isolés. Et c'est le point important, puisque nous nous adressons essentiellement aux grandes villes et Paris au premier chef, bien sûr, c'est que très vite, un collaborateur qui part pour une mission de 3 mois, par exemple, ou qui est en transition, ou qui est ce qu'on appelle pendulaire, c'est-à-dire qu'il a sa famille en région, il vient passer 3 jours par semaine à Paris, très vite, on a remarqué que ces personnes se trouvent isolées. Et là, le concept, c'est que vous avez votre studio, mais il y a dans l'immeuble, puisque nous fonctionnons toujours avec un immeuble entier, il y a dans l'immeuble des espaces communautaires importants qui représentent jusqu'à 25% de la surface de l'immeuble. Donc, c'est un vrai pari architectural en même temps. Et ils peuvent se retrouver au salon, dans une cuisine communautaire, à l'espace fitness, dans un coworking, à la laverie, dans le jardin, sur le rooftop. Voilà. Donc, nous offrons cette diversité de lieux de rencontre qui permettent de ne pas être isolés. Et ça, c'est important.
Ça, c'est un point intéressant que vous soulevez sur le public visé. On associe beaucoup le co-living à des profils jeunes qui démarrent dans la vie active et qui n'ont pas forcément les moyens de se loger autrement, en tout cas de manière classique. On peut avoir cette image un peu de la colocation à la Friends. Et finalement, vous vous adressez à un public, si je comprends bien, d'actifs en mobilité.
Exactement. Exactement. Et le point de départ, c'était l'idée du nomadisme des travailleurs aujourd'hui qui changent d'entreprise beaucoup plus facilement qu'auparavant, changent de pays plus facilement et qui maintenant, de plus en plus, ont pris l'habitude d'avoir deux résidences. On ne parle pas de 80% évidemment des collaborateurs de société, mais il y a quand même une frange importante maintenant qui a sa résidence familiale, sa résidence professionnelle et qui partage leur temps entre les deux. Et donc, nous nous adressons beaucoup à cela. Mais en fait, notre première clientèle, ce sont les entreprises. Nous nous inscrivons dans une démarche B2B et nous essayons d'offrir ce service aux entreprises. Alors, pourquoi est-ce important pour une entreprise d'entrer dans ce dispositif, dans le nôtre ? D'abord parce que ce sont de petites unités et que ça permet d'assurer à la fois une certaine communauté spontanée, mais qu'on va animer de temps en temps, mais avant tout spontanée, de gens qui se ressemblent, qui peuvent avoir des intérêts communs. D'ailleurs, la première résidence est louée par une entreprise qui a tout pris pour ses cadres, mais on aime bien l'idée du mélange, du brassage, et en même temps, les unités n'étant pas très importantes, nous avons 1000 à 2000 mètres carrés, donc c'est entre 20 et 45 studios. Tout le monde a une chance de se rencontrer, de se connaître, de s'apprécier, d'autant plus que les locations sont de longue durée, donc c'est un mois minimum. Et en cela, nous sortons de la définition proprement dite hôtelière. Donc nous nous différencions de l'hôtellerie par la durée et par l'importance des espaces communautaires. L'entreprise trouve également l'avantage d'avoir un loyer unique, forfaité, qui inclut tous les services. Donc, en termes de gestion pour une entreprise, ne pas avoir à traiter des factures de 5 euros pour avoir fait 5 photocopies, c'est un gain de temps considérable. C'est un gain de temps considérable pour nous et ça nous permet d'être quasi entièrement digitalisé et donc de fonctionner avec des coûts fixes bien plus réduit et donc d'arriver à offrir un tarif qui est entre 30 et 50% moins cher que l'hôtellerie classique ou les résidences hôtelières classiques.
Et ça peut faire une différence.
C'est une vraie différence.
Est-ce que cette approche B2B influe sur la localisation des immeubles ? Est-ce que du coup, vous pouvez potentiellement les poser dans des quartiers d'affaires plus que dans des quartiers résidentiels ?
Alors, notre point de repère, c'est le métro. Nous partons du principe que les personnes qui sont en mobilité n'ont pas de voiture, au demeurant, de moins en moins de personnes ont de voiture, donc il faut qu'il y ait un métro à proximité immédiate. Ça, c'est le point de repère. Après, que ce soit dans un quartier résidentiel ou un quartier d'affaires, n'est pas vraiment important. Mais il faut quand même que le quartier soit animé. Donc ça, c'est plutôt à la périphérie des centres d'affaires qu'en plein cœur, parce que quelqu'un qui travaille n'a pas envie de se retrouver exactement au même endroit quand il vit sa vie personnelle. Donc on est plutôt à la périphérie des grands quartiers d'affaires. Alors évidemment, Paris, ça vaut pour tous les quartiers. Donc notre immeuble rue Washington est dans un quartier par définition très animé puisqu'on est à 50 mètres des Champs-Élysées. Mais c'est une rue qui est relativement plus calme que les Champs-Élysées, bien sûr. À Issy-les-Moulineaux, nous sommes véritablement à la frontière entre le résidentiel et la partie bureau. Donc tout est accessible à pied. C'est aussi un autre point de repère, à la fois un métro et tous les services sont accessibles à pied.
Quels sont les projets à venir pour Finistère? Peut-être poursuivre son développement, je suppose.
Ah ben, j'espère bien, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, les projets à venir, en fait, on ne localise pas un immeuble. Nous examinons une centaine de dossiers par an et c'est plutôt un choix qui s'effectue en croisant tous ces critères que je viens d'énoncer.
Vous ne construisez pas, hein, pardonnez-moi.
C'est pas très loin. Ça n'est pas très loin parce qu'en fait, nos deux grands immeubles sont des immeubles de bureaux que nous transformons. Donc, nous nous inscrivons délibérément dans une démarche écologique, environnementale, puisque nous transformons au lieu de raser, reconstruire. Et objectivement, c'est vertueux au point de vue environnemental, mais c'est très vertueux aussi parce que c'est beaucoup plus difficile de transformer et de rénover que de construire ex nihilo. Et c'est en plus déjà difficile en soi parce que le co-living est un secteur d'activité qui n'a pas encore trouvé sa définition. Donc nous ne sommes pas une classe d'actifs reconnue en tant que telle. Nous sommes entre l'hôtellerie et le résidentiel, donc entre deux classes d'actifs commerciales résidentielles qui ont peu de points communs. Et au point de vue architectural, les normes sont très souvent en télescopage. Ça complique vraiment la tâche. Ça complique beaucoup la tâche. Mais en même temps, on aura la fierté d'avoir été jusqu'au bout de nos convictions dans ces deux immeubles.
Et pour trouver des investisseurs, c'est compliqué ou pas? Puisque le co-living a un peu le vent en poupe en ce moment quand
beaucoup,
même.
Beaucoup. Et d'ailleurs, dans les allées du MIPIM, j'ai pu m'en rendre compte. Mais pour le moment, nous investissons en fonds propres. Donc ça s'est passé assez facilement, avec l'aide de nos banquiers traditionnels, bien sûr, que je remercie toujours, bien sûr. Mais nous entrons dans la phase où nous avons quelque chose à montrer et donc on est en mesure de travailler avec des investisseurs. Nous avions été approchés très en amont, très en début, par trois fonds d'investissement, mais leur horizon était très court et heureusement qu'on n'est pas allé plus loin parce qu'on n'aurait pas su en 4 ans, dont 2 années et demie de pandémie, livrer ce qu'ils attendaient. Là maintenant, nous avons déjà un petit portefeuille, mais enfin qui fait quand même 70 studios. Et nous sommes en mesure soit d'ouvrir le capital, soit de travailler pour compte de tiers, en l'espèce, pour des investisseurs.
D'autres immeubles à venir que vous pouvez nous annoncer?
Non, annoncer non, parce qu'on n'a pas encore signé, mais on est avancé sur deux dossiers et on espère signer bientôt, justement.
Il faudra venir nous en parler alors.
Avec joie, tout à fait.
Merci beaucoup Marie Zolagnon d'avoir été avec nous. J'appelle que vous êtes présidente directrice générale de Finestate. Vous êtes également la présidente de la Fédération des entreprises immobilières. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022 au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonise sur Radio Immo.